Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Simon Dutin, Renaud Longuèvre, Marie Martineau, David Douillet. Dans quelques instants, la 122e édition de Roland-Garros qui débute aujourd'hui. On parlera des Français, faut-il être indulgent ou exigeant avec eux. 11h30, le reportage de la rédaction d'RMC il y a un an, jour pour jour, le 28 mai 2022. Le fiasco au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions. La France montrait aux yeux du monde entier son incapacité à organiser un événement majeur. Avez-vous peur? Un an des Jeux Olympiques. Parce qu'avoir peur à un nœud, ça ne veut strictement rien dire. Notre invité exceptionnel pour parler de Roland Garros, c'est Joe Wilfried Tsonga, l'un des plus grands tennisman français de l'histoire. Bonjour Joe.
Bonjour.
En direct. Salut de Roland Garros, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, débutons par cette opération BNP Paribas qui mobilise les fans, les acteurs du tennis autour d'un grand match solidaire en faveur de la jeunesse à l'occasion de ce premier tour. Aujourd'hui, ce sera sur le court Philippe Châtrier, un match à 19h, match du premier tour, une rencontre festive, caritative, en présence évidemment de Joe Wilfried Tsonga. Joe, c'est plus dur de jouer à Roland Garros ou d'organiser ce genre d'événement?
Alors Roland Garros, je pense que c'est une très bonne question. Pardon, j'allais dire quelque chose et je me suis retenu. Honnêtement, j'en ai aucune idée puisque moi j'ai été joueur et puis maintenant je suis passé de l'autre côté. Je suis aussi du côté des organisateurs parce que j'organise aussi des tournois de tennis. Mais je pense que c'est quand même plus dur d'être joueur que d'organiser.
Et ça vous plaît comme ça d'avoir ce genre d'opération, alors soit d'opération commerciale évidemment ou d'opération caritative qui essaye de promouvoir la jeunesse? C'est une fierté après la carrière.
Oui, non, c'est une vraie fierté. C'est vrai que là, pouvoir fêter les 50 ans du partenariat entre BNP Paribas et Roland Garros, c'est chouette. On est en train de faire un grand événement. On va inviter 10 000 personnes à venir voir le match ce soir entre Adrian Manarino et Hugo Humbert. Et c'est vrai que tout ça dans la joie, dans la festivité et dans l'entraide. Et je crois que c'est aussi l'objectif de BNP Paribas, c'est d'être présent non seulement au plus haut niveau, au niveau sportif, mais aussi au plus haut niveau, associatif et au plus haut niveau, inclusif et éducatif. Je crois qu'ils vont hyper loin. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de BNP Paribas avec le tennis, je devais avoir 7 ou 8 ans et j'allais chercher un porte-clés et un t-shirt BNP Paribas quand je gagnais un petit tournoi dans le village à côté de chez moi.
Joe Wilfried Tsonga est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. C'est vrai que ce soir, il y a ce match à 19h. Donc, entre deux Français, Adrian Manarino et Hugo Humbert, si vous avez l'occasion de vous rendre sur le court Philippe Châtrier, c'est déjà une très belle affiche. Ça va peut-être être une question de journaliste, Joe Wilfried Tsonga, je m'excuse par avance. Mais c'est vrai que c'est votre premier Roland Garros sans jouer. Quand on est comme ça, néo-retraité, est-ce qu'on a envie de jouer ou non? On a rapidement fait risette et puis, c'est comme ça.
C'est vrai que maintenant on est collègues.
Exactement, cher collègue, quel plaisir.
Voilà, quel plaisir, exactement. Non, mais c'est sûr que aujourd'hui je suis juste bien. J'ai fait une carrière qui a duré quand même 20 ans, où j'ai eu le temps évidemment de profiter du fait d'être joueur de tennis professionnel. Je me suis régalé, je ne changerai rien de tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui je suis ravi aussi, j'ai le temps de passer un peu de temps en famille, j'ai le temps de découvrir de nouvelles activités, de découvrir de nouvelles personnes, et donc ça me permet aussi de m'épanouir dans ma vie de tous les jours.
Collègue Joe Wilfried Tsonga, consultant pour le tennis, si on vous avait dit il y a 10-15 ans, Joe Wilfried, que vous seriez consultant pour parler tennis, vous auriez cru ou pas?
Non, je t'aurais dit jamais. J'aurais peut-être employé ce mot-là, jamais. Mais je suis ravi. Je suis ravi. C'est vrai que aujourd'hui, je suis passionné de tennis. Je crois que j'ai jamais menti. Je crois que ça a dû se voir peut-être sur le terrain. Mais je suis passionné de tennis et de sport même en général. Et donc du coup, pour moi, il n'y a rien de plus naturel finalement que de rester dans ce milieu sportif Et je suis, en tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir en faire partie encore et jusqu'à la fin.
Bon, évidemment, on va profiter de ta présence quand même pour parler de ce Roland Garros 2023. Joe Wilfried Tsonga avec nous en direct sur RMC. Joe, qui est le favori? Est-ce qu'on peut répondre véritablement à cette question alors que Rafael Nadal n'est pas là? On sait que le tableau, on le dit, plus ouvert, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive à se dégager tout de même?
Je pense qu'il y a trois joueurs vraiment qui se sont montrés en bonne forme ces derniers temps. Je pense notamment à Alcaraz qui est tout jeune, qui a l'énergie, dont c'est le rêve évidemment de gagner Roland Garros. Il y a aussi Daniil Medvedev qui est en train de montrer qu'il peut jouer sur terre battue aujourd'hui, qu'il est capable, qu'il a tout. Qu'il a intégré toutes les petites subtilités de la terre battue et évidemment Novak Djokovic qui aujourd'hui prend la place de patron à Roland Garros tout simplement parce que c'est celui qui l'a gagné. C'est un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur ces dernières années. Voilà, il va quand même falloir compter avec lui. Je pense que sa préparation n'a pas été aussi idéale que les années précédentes où effectivement il gagnait les tournois sur terre battue qui précédait Roland Garros. Mais je pense qu'il faut compter sur lui et un grand chelem, c'est un tournoi différent. C'est pas la même chose qu'un tournoi de 7 gagnants. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se terminer en tout cas.
Une dernière question avec Joe Wilfried Tsonga qui nous fait le plaisir de nous dire et de nous passer un petit coucou dans les grandes gueules du sport avant cette édition 2023 de Roland Garros. Dans quelques instants avec les GG, Joe, on aura cette question. Est-ce qu'il faut être indulgent ou exigeant avec les Français? On sait que parfois c'est compliqué, que les générations ne sont pas toujours là. On peut répondre quoi? Tu répondrais quoi toi à cette question?
Moi, j'aurais tendance à dire avec ma bienveillance légendaire qu'il faut être indulgent avec eux, tout simplement parce qu'il faut leur laisser le temps. Moi, je sais que en tant que joueur de tennis, les choses prennent du temps. On ne devient pas un champion en une semaine. Souvent, les gens voient évidemment ce qui va se passer à la télé, c'est-à-dire une compétition avec David Douillet qui va remporter la victoire finale et on a l'impression que c'est soudain. Mais en fait, c'est des années et des années de travail derrière tout ça. Je pense que là, on a une bonne génération de jeunes Français qui est en train d'éclore avec Arthur Fils, Lucas Van Hache, il y a aussi Giovanni Mpeci qu'on connaît moins mais qui est un joueur aussi qui commence à montrer le bout de son nez. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut leur laisser du temps. Je pense qu'il faut pas brûler les étapes, faut pas tomber dans les erreurs d'avant en se disant bon, ils ont gagné 2-3 matchs, ça y est, c'est des grands champions. Non, ils ont gagné 2-3 matchs et c'est là où je pense qu'il faut être exigeant avec eux. C'est vous avez gagné 2-3 matchs, on retourne au travail. Maintenant, il y a une nouvelle étape qui va arriver, c'est gagner des matchs dans les grands chelems, dans les Master Series, aller chercher des victoires sur les plus grands joueurs du monde et pas brûler les étapes. Donc, de l'indulgence avec eux évidemment et de la bienveillance et ensuite de l'exigence justement au fait d'avoir cette humilité du joueur de tennis parce que le tennis c'est vraiment un sport d'humilité.
Et on ne peut pas avoir tout le temps des grands champions comme David Douillet, comme Joe Wilfried Tsonga qui vient de nous le dire à l'instant. Merci beaucoup Joe Wilfried d'avoir été avec nous. J'ai envie de dire au revoir collègues et à bientôt et surtout belle quinzaine en tout cas de l'autre côté de la barrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Tout de suite, forcément, nous parlons Roland Garros.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne.
J'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner. Et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
Souvent privé de sa première balle de service, le Suisse devient vulnérable. Gaël Monfils en profite, 7-5, il égalise à une manche partout. Victoire finale de Roger Federer en 4-7, la fin de la belle aventure de Gaël Monfils. Monfils perd contre plus fort que lui, mais prend rendez-vous avec Roland Garros et le Gotha du tennis, car il n'a que 21 ans.
Voilà, on rêve tous à un moment donné de battre un des plus grands joueurs du monde sur ce terrain. Bah, ce match-là, ça a été compliqué. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en parler. Me dire là, quand même, j'ai fait une balle de break sur 17, c'est pas beaucoup.
Ah, il faut la plier celle-là.
C'est fait. Quelle victoire d'Hugo Gaston. Incroyable performance. Le papa et le coach d'Hugo Gaston, Marc Barbier. Quel boulot ils ont accompli pour propulser Hugo Gaston au toit du monde. Non, il n'y est pas encore sur le toit du monde, mais presque en tout cas dans cette.
Oh, c'est fou.
C'est fantastique.
Incroyable.
Comment il sauve cette balle de match.
Qu'il avait terminé la Dominique Thiem, mais non, il est toujours là le français. Oui. Le sourire de Dominique Thiem et le soulagement de l'Autrichien qui s'impose en 5 manches face au français Hugo Gaston.
C'est le grand jour aujourd'hui de l'édition 2023 de Roland-Garros avec une première semaine où nous allons vivre au rythme des Français dans une ambiance survoltée à l'heure où nous célébrons les 40 ans du sacre de Yannick Noah. Ils seront 30 sur la ligne de départ, 20 hommes, 10 femmes à espérer atteindre la deuxième semaine. La meilleure chance française, vous le savez, sera comme l'année dernière, Caroline Garcia, tête de série numéro 5 chez les hommes. Un représentant en 8e de finale, ce n'est plus arrivé depuis 3 ans, serait déjà une sacrée performance. La musique qui fout les jetons, et cette question. Elle arrive de Porte d'Auteuil. Elle arrivera peut-être pas de Porte d'Auteuil. Elle est coincée, évidemment, dans un taxi, parce que vous savez, les bouchons parisiens, tout ça. Bref. Faut-il être indulgent ou exigeant avec les Français? Indulgent, exigeant. Simon Dutin.
Indulgent.
Indulgent. Marie Martineau.
Exigeant.
OK. David Douillet.
Moi, la balance est assez équilibrée, mais ça penche quand même du côté exigeant.
L'exigence du grand champion. Merci, David. Ouais. Renaud Longuèvre.
Et l'exigence du coach.
3 exigeants, 1 indulgent. On a retrouvé la musique qui fout les jetons, mais autant vous dire tout de suite, c'est trop tard. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Roland, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric. Salut.
Alors, quel est le programme de cette première journée pour nos Français?
Eh ben, ils sont 10. Ils sont 10. Alors, une mauvaise nouvelle, puisque tu parlais du nombre de Français au départ, on vient d'apprendre, et c'est officiel, le forfait de Benjamin Bonzi, donc on perd un élément.
Ah non, c'est mon préféré.
Ouais, mais il s'était blessé à Monte-Carlo et au poignet, c'est une vilaine blessure, donc on ne le verra pas à Roland. C'est un lucky loser qui le remplacera. Donc 10 Français sur la ligne de départ aujourd'hui. Ce qu'il faut suivre impérativement, on avait parlé, c'est le derby sur le central entre Manarino et Humbert, parce que Hugo Humbert, il peut avoir un bon tableau si jamais il passe l'obstacle Manarino. Un autre derby aura lieu sur le Simone Mathieu dans l'après-midi, c'est Arthur Cazot contre Corentin Moutet. Et puis le cours 14, c'est le cours des Bleus. Il n'y a que des Français qui ont été programmés. Jessica Poncher est en difficulté déjà contre une Argentine. Hugo Grenier et Fusovic. Jean-Jean contre l'Australienne Birel. Et puis Lucas Pouille contre Yuri Jroyanov. Je pense que dans les allées, tout le monde attend cette rencontre. C'est un cours qui est ouvert aux possesseurs d'annexe. Donc je pense que le cours sera plein à craquer dès 15h pour suivre le remake de ce match entre Pouille et Rodionov.
Merci beaucoup Eric Salut. On va suivre toute cette journée avec toi en direct sur RMC. Indulgent, exigeant avec les Français, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Renaud Longuèvre, pourquoi exigeant?
Pourquoi exigeant? Parce que pour moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que Joe disait tout à l'heure. Parce que lui, par exemple, en 2008, quand il fait finale à l'Open d'Australie, il termine l'année 2007, il est 43e mondial. Et pourtant, ça l'a pas empêché de perdre en finale contre Djoko et de battre Rafael Nadal en Australie en demi-finale, alors que c'était un 100 grades. Il était au même classement aujourd'hui que le meilleur français. Donc moi je suis pas d'accord avec cette culture du calcul. Il y a un peu, je trouve, dans le tennis trop de respect des têtes de série. Il y a une espèce de culture du calcul. Ah bah oui, dans cette partie-là du tableau, il y a lui, il y a truc. Ben non, dans le sport du haut niveau, à un moment, pour devenir un champion et gagner un grand chelem comme l'a fait Yannick Noah, eh bien, faut crever le plafond. Faut déjouer tous les pronostics. Et dans toutes les carrières, et David me contredira pas, des champions, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose de brutal qui ne s'annonce pas, qui ne se voit pas. Alors oui, Joe Wilfried était un junior très très fort qui a gagné l'US Open Junior, qui a ensuite galéré avec des blessures, ce qui peut-être avait retardé son explosion. Mais dans tous les sports, on retrouve ça. Et je trouve que là, c'est pas bon. Moi, aujourd'hui, David, là aussi, ça va lui parler, mais le judo israélien, le pays où je travaille, fait aujourd'hui des résultats olympiques. Mais il a fallu un jour démystifier que les Japonais et les Français étaient imbattables. Et c'est Yael Arad, la première femme médaillée pour Israël, qui l'a fait en 92. Et à un moment, il faut arrêter cette culture du calcul et se dire, il y a deux jambes, deux bras, et puis pourquoi pas battre Djoko, pourquoi pas battre Alcaraz. Pour un Arthur Fils, c'est l'âge de pas respecter les classements et les gens qui sont a priori plus forts que toi.
Arthur Fils qui vient de remporter son premier tournoi.
Renaud, t'as raison c'est de souligner la perte de Songa en 2008, c'était absolument fabuleux. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il bat Nadal en 3-7 secs, c'était absolument monstrueux. Il perd en 4 contre un Djokovic qui débutait son immense carrière. Il perd pas contre n'importe qui. Depuis, on n'est pas retourné, sauf erreur de ma part, en finale de Grand Chelem chez les messieurs. La précédente finale, je crois que c'était Arnaud Clément, 7 ans avant, en 2001. Et avant ça, ça devait être Pioline et Noah, ou Lecomte. Bon, c'est rarissime pour nous. Tsonga, il s'est révélé être quasiment ce qu'on a eu de mieux parmi les joueurs français dans l'histoire du tennis moderne. Il le disait lui-même chez les confrères de l'équipe cette semaine. Il a été poussé à dire les quatre mousquetaires, ça arrive pas quand même, tu trouves pas ça sous le sabot d'un cheval, ça arrive pas à toutes les générations, et c'est normal. Et sans leur faire injure, et j'espère qu'ils vont me donner tort, mais je vois pas Humbert gagner un grand chelem pour l'instant, je vois pas Gaston gagner un grand chelem pour l'instant, je vois pas Bonzi gagner un grand chelem pour l'instant. Pouille, attendons. Donc moi je dis indulgent, soyons au moins patients, parce que Pouille, c'est vrai qu'on nourrissait des espoirs. Yannick Noah le premier à l'époque, il fait tout juste son retour. Arthur Fils a gagné hier avec autorité son premier tournoi sur le circuit ATP, et on l'a dit ici, on aime bien cette mentalité. 18 ans, et le mec, il annonce, alors qu'il n'avait pas encore gagné un tournoi,
qui
veut gagner un grand chelem. Donc effectivement, et ça c'est pas très français, tu vois ce que je veux dire, ça nous bouscule un petit peu dans nos habitudes. Donc ouais, pourquoi pas, moi j'ai envie d'y croire, mais je suis désolé, tu peux pas dire moi j'en veux un dans le dernier carré là à Roland ou à Wimbledon cette saison. C'est pas possible, ce serait absolument pas réaliste, et ce serait effectivement leur coller une pression exagérée. Je suis désolé, pour l'instant on n'a pas les moyens de gagner, tu presses pas 2 litres de jus avec une seule orange, quoi. Je suis désolé.
J'adore, merci Simon. Marie Martineau.
J'ai répondu exigeant, je pense que c'est à eux d'être exigeants, à nous d'être un petit peu indulgents et de les voir venir, de les laisser venir. Mais quand je dis exigeant, je c'est juste parce que j'ai eu l'occasion de visiter le centre national d'entraînement de l'équipe de France de tennis, qui est un centre mais hallucinant de technologie, des salles et des pièces entières pour s'entraîner, pour faire des études de stats sur, et collecter des datas sur leur corps, sur leur santé, sur, et donc je trouve qu'ils ont un joyau pour les aider à réussir. Je pense qu'on est dans un pays où tu peux jouer au tennis depuis ton plus jeune âge, avoir des coachs dès le plus jeune âge qui sont de très bons coachs. Enfin, on a un petit peu tous les ingrédients pour nous permettre d'avoir des mecs qui deviennent tête de série. Donc c'est à ce niveau-là que je parle d'exigence, et que maintenant c'est à eux de faire le job, et en tout cas ils ont toutes les détails requis pour y arriver, tu vois. Donc c'est là que je pense qu'il y a vraiment l'exigence. Après, nous en tant qu'observateurs, je crois qu'on doit être un petit peu indulgent, on doit les laisser faire leur job, et c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses.
Ok, on dit ça aussi pour le marché. On dit la foire,
ouais,
on dit le bal. Très bien.
Mais tu sais, nous, on mélange la foire, c'est dans les grandes villes. Nous, on a des marchés, tu vois.
Ah oui.
Ouais, je suis au fond de la vallée, moi.
Ouais. David, à Bourg-en-Bresse, t'as fait une expression là-dessus. Vous avez des marchés, vous d'ailleurs, à Bourg-en-Bresse?
Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. On s'est inscrit depuis très longtemps dans les circuits courts.
Waouh!
On a largement un
avance. Il a tué le truc.
Évidemment.
Bien sûr. T'es exigeant. De toute façon, toi, double médaillé olympique, tu peux pas être indulgent là-dessus quand on parle de sport de haut niveau. Ça résonne pas en toi.
Exactement. Le haut niveau, et Renaud l'a très bien décrit, ce n'est que de l'exigence. Et Marie va, je pense, le confirmer aussi, c'est de l'exigence. Après, on peut pas comparer tout le monde. On fait souvent, on a toujours cette facilité, cette envie de comparer Pierre, Paul, Jacques, etc. Il n'y a pas un athlète une athlète qui soit identique, quelles que soient les disciplines, dans leur catégorie d'âge, etc. Pas un n'est-il. Certains vont gagner à 17 ans, 16 ans, d'autres vont gagner à 24, 25, et faut pas les comparer. Donc c'est là où intervient un petit peu l'indulgence. Mais l'indulgence, et Marie l'a dit clairement aussi, et c'est intéressant, elle vient de nous, les spectateurs. C'est-à-dire qu'il faut mesurer ce qu'est une vie d'athlète, mesurer la difficulté, la dureté de ce type de vie, qui est imprégnée d'exigences, et se dire, nous, de notre côté, attention, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, il y a tellement de paramètres, etc., etc. Quelquefois, il faut être un petit peu indulgent pour éviter de les écraser sous la pression médiatique, parce qu'il y a ça qui compte maintenant aujourd'hui, une pression médiatique que certaines ou certains gèrent plus ou moins bien. Donc c'est là où il faut être un petit peu, quelquefois, mesuré pour pas trop être exigeant, mais de l'extérieur. Voilà. Mais de l'intérieur, c'est que de l'exigence, forcément. Je pense que il y a un truc qui pour moi, il y a toujours une interrogation, c'est l'articulation qu'il y a entre les jeunes, au niveau de la France, hein, le tennis des jeunes, où on a les meilleurs mondiaux, régulièrement, et puis l'articulation, tac, dès qu'ils passent en autonomie de gestion de leur équipe, en professionnalisme, d'un seul coup, le truc se dégonfle, et ils ne sont plus les meilleurs. Là, il y a une inconnue. Je me demande si, pourquoi pas, et puis ça pourrait être un modèle français qui pourrait être intéressant de développer, si la Fédé ne devrait pas avoir un sas plus important de transformation entre, on va dire, le côté amateur, jeune, junior et le côté pro, pour que ces gamins, qui sont les meilleurs mondiaux, puissent continuer à l'être de manière complètement efficiente dans leur carrière d'adulte. Et c'est là où je crois qu'il y a un truc qui manque, j'arrive pas à le trouver, et ça je m'en réfère aux spécialistes, parce que c'est bien dommage. On est capable de fabriquer les meilleurs jeunes, on n'est pas capable de les avoir plus tard.
Okay, bah Eric Salio est toujours là avec nous. Eric, est-ce que tu peux répondre à David? Et puis aussi, sur ce tennis français, toi qui va tous les ans à Roland-Garros, est-ce que tu as l'impression que le public y croit toujours, encore, encore et encore, mais un petit peu résigné?
Cette année, il n'y a pas d'énorme attente. On le sent bien. Le public de Roland est connaisseur. Il voit bien les classements ATP. Bon, il voit bien que les Français sont loin. Mais on a une excellente formation. Ça, c'est vrai. David l'a souligné. Je rappelle qu'il y a deux ans, dans le tournoi junior, il y avait quatre Français en demi-finale. Il y en a trois qui sont dans le tableau final cette année. Un qui a gagné son premier tournoi ATP hier. Donc, finalement, ça, je trouve que le rythme est plutôt bon. Gagner un tournoi ATP à même pas 19 ans, vous regardez, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait hein, dans la carrière. Et ceux qui l'ont fait, ils ont toujours eu... ils ont eu un parcours assez sympathique derrière. Donc, il faut être patient. Et puis, c'est vrai que le monde a changé. Hier, il y avait la conférence de presse de Yannick Noah. Et on a senti qu'il n'avait pas vraiment kiffé ses dernières campagnes en Coupe Davis parce qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'il avait construit avec 91, 96 et puis la nouvelle génération qui a toujours le nez plongé dans le portable et les réseaux sociaux. Mmh. Et pour lui, c'est toxique.
On a toujours gagné dans les grands chelems juniors ou en tout cas très bien figuré depuis 20-30 ans. Le problème, c'est le plafond, c'est le passage à l'étage au-dessus. C'est pour ça que le titre de fils, il est prometteur hier, parce que comme tu l'as dit, c'est rare que les mecs à l'étage supérieur, ils concrétisent tout de suite.
Il y a très peu d'élus. Alors voilà, la question, est-ce que Richard Gasquet, 7e mondial, c'est pas bien? Est-ce que Gaël Monfils, des demi-finales de Schlem, c'est pas bien? Tsonga, une finale de Schlem et des demi, c'est pas bien?
On n'a pas dit ça.
Ça dépend de notre niveau d'exigence. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'on n'a rien gagné. Je suis d'accord. Enfin, faut reconnaître que ceux qui ont gagné, c'est quand même des monstres. C'est des monstres. Ils n'ont pas les
salles. Si tu compares avec nos voisins espagnols, ils ont un monstre.
Ils ont gagné combien?
Ils ont un monstre. Non, mais ils ont un monstre qui s'appelle Nadal, qui est plutôt sur la fin. Et pouf, ils te ressortent Alcaraz. Tu vois, c'est ça. C'est là où je rejoins David. C'est là où il faut s'interroger. Et aussi, j'ai vu une interview de Joe Wilfried Tsonga qui disait que lui, il avait été un moment jaloux de la relation entre Carlos Moya et Nadal. Oui. Et voilà, moi, je remarque un truc, et peut-être que ça c'est à creuser, c'est que pour moi, dans tous les systèmes de haute performance, il y a un point commun, c'est la présence des anciens champions. C'est la transmission, c'est la transmission de l'expérience. Et je suis désolé.
Je crevais d'envie de poser à Joe, est-ce que tu peux être le nouveau Ferrero? toi, prendre un petit jeune.
Bah attends, il a déjà fait Kinder Bueno, tu vas quand même pas lui demander de faire Ferrero.
J'étais seul avec
Attends. Excellent. Oh,
la vanne.
Médaille en chocolat, j'y sais pas.
Merci les copains, mon producteur Pyramide, je viens de me dire j'ai honte. Moi aussi je t'aime et merci de ton soutien. 11h30, on se retrouve dans quelques instants avec Eric Salio. Vous allez tous suivre sur RMC de cette première journée à Roland Garros et puis je vous invite à télécharger l'application RMC avec la radio digitale. Nous serons là pour commenter toutes les rencontres, les meilleures affiches du tournoi, les interviews des joueurs après les rencontres. Bref, vraiment, je vous conseille cette radio digitale. Ça commence aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler d'un anniversaire, triste anniversaire. Il a un an, c'est le fiasco du Stade de France. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Marie Martineau, Simon Dutin, Renaud Longuèvre. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16 si vous n'êtes pas d'accord avec une GG. Tout de suite, le reportage. Il y a un an, la France connaissait le fiasco du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Des semaines de polémiques vont s'en suivre après cette journée chaotique. Nous accueillons dans le studio RMC Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG.
Salut Nico.
C'est vrai qu'il y a un an, le 28 mai 2022, à ce moment de la journée, Paris était en fête.
Oui, une journée parfaite, du soleil, de l'ambiance, du monde dans les bars et aucune tension dans les rues de Paris entre fans de Liverpool et du Real Madrid. À Saint-Denis, dans la fan zone, des Espagnols ont chanté devant un écran géant et dans Paris, une marée rouge déferle. Les fans de Liverpool aux côtés de Morgan Mori étaient rassemblés au cours de Vincennes.
À côté de la place de la Nation, sur ce cours de Vincennes, tous les 100 mètres, on a mis un écran géant et depuis le début de l'après-midi, les supporters de Liverpool arrivent, boivent des viennent se placer devant cet écran géant. Alors, ambiance bon enfant depuis le début de l'après-midi. Aucun débordement. Alors, des litres et des litres de bière. Les éboueurs étaient au travail tout l'après-midi pour nettoyer cette plage.
De l'alcool, beaucoup d'alcool, mais dans le calme, tout se passe bien. Les supporters de Liverpool sont beaucoup plus nombreux que les Espagnols. La journée parfaite va prendre un autre visage peu avant 20h et nous sommes devant l'entrée du Stade de France.
C'est qu'il y a eu un très gros problème de filtrage à l'entrée du Stade de France. Des supporters de Liverpool étaient en train de patienter au moment de présenter leur ticket sur le premier filtrage avant d'arriver au parvis du Stade de France. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un très gros mouvement de foule. Les policiers n'ont pas pu contenir ce mouvement de foule et donc plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas tiqué sont présents sur le parvis du Stade de France.
Le premier filtrage du Stade de France éclate. Les policiers ne peuvent rien faire. Sur le parvis, des supporters des deux équipes sont agressés. À côté de notre caméra, un supporter de Liverpool en larmes. Il est handicapé. Il ne peut pas courir et il a tout perdu. Tous ses effets personnels. Plus de téléphone. Cette scène est marquante. Juste derrière, devant l'entrée X, une jeune femme se fait attaquer. Sa place de stade est volée. Ça court dans tous les sens. Alors que des fans anglais attendent patiemment devant leur entrée, il n'y a plus rien de réel à 20h40. Sur le parvis du Stade de France. Comme un mauvais film, au même moment, l'UEFA retarde une première fois le début de la rencontre.
Merci d'écouter RMC, il est 21h. On aurait dû lancer la finale de Ligue des Champions maintenant depuis 35 secondes. Liverpool, Real Madrid, le Stade de France, mais le coup d'envoi a été retardé, repoussé à cause d'un trop grand nombre de supporters qui n'a pas pu rejoindre les travées.
À ce moment-là, tout le monde est dans le flou. Certains parlent même d'une annulation du match. Les enjeux financiers sont trop grands. L'UEFA retarde alors une deuxième fois le coup d'envoi.
21h20, coup d'envoi prévu à 21h36, la cérémonie d'ouverture de la 67e finale de Ligue des Champions est en train de se mettre en place.
Les incidents se poursuivent, les diffuseurs montrent très peu d'images de l'extérieur, la finale débutera avec 36 minutes de retard et dehors c'est encore le chaos du jamais vu, une honte pour l'organisation française aux yeux du monde, on parle quand même de l'un des événements les plus regardés de la planète. À l'extérieur, les supporters anglais qui ne sont pas entrés dans le stade sont excédés.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon billet.
C'est honteux. La France, l'organisation, l'UEFA, c'est une catastrophe. On se rendait bien compte qu'à un moment ou à un autre, la grille allait céder. Il y avait tellement de monde amassé, on essayait d'empêcher que ça arrive, parce que si la barrière tombait, les gens allaient s'écrouler les uns sur les autres. Et ce serait devenu très dangereux.
Des bandes d'individus vont à la confrontation avec les forces de l'ordre. Certains sortent des lames de couteau devant les fans de Liverpool, au milieu des familles anglaises. La police française tire des bombes lacrymogènes. Les yeux rougis, les fans de Liverpool cherchent les caméras pour montrer ces débordements. Ce soir-là, Sam, stadié au Stade de France, voit un autre agent en difficulté.
On a eu un collègue qui a été pris à partie par 5-6 jeunes.
qui l'ont bien embauché, qui lui ont volé son gilet stadier et son accréditation pour qu'ils puissent, eux, en fait, intégrer même au sein du Stade de France.
Certains individus sans billet escaladent les grilles du stade. Aucun n'a le maillot de Liverpool. Le plus souvent, ils sont cagoulés. Devant nous, des personnes courent juste derrière des policiers en difficulté. Le 28 mai 2022, Adèle n'avait pas de billet. Pourtant, ce match entre Liverpool et le Real Madrid, il a pu le voir depuis l'intérieur du Stade de France.
En fait, on a vu que c'était un peu n'importe quoi. On voyait des gens qui couraient un peu partout, des gens qui essayaient de rentrer. On voyait des gens grimper par des endroits. Du coup, moi, qui est fan de foot, je me suis dit, si j'ai la chance d'entrer au stade sans billet, je vais y aller, je vais tenter ma chance. Et du coup, c'est en suivant les gens, au fur et à mesure, j'ai pu rentrer dans le stade.
Il faut quelques heures pour réaliser les scènes de chaos. Le lendemain, les chaînes de télévision du monde entier sont à Paris. Les fans de Liverpool témoignent, accusent les autorités françaises. À 2 ans des Jeux à Paris, ça fait tache. En face, la réponse est ferme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt sur Twitter les 40 000 faux billets du côté des supporters de Liverpool. Un mensonge. Heureusement, les fans anglais ont pu compter sur les sénateurs. Une commission d'enquête est rapidement lancée. Les auditions s'enchaînent. Un an plus tard, Michel Savin, sénateur de l'Isère, très investi dans les auditions, n'a toujours pas digéré la prestation des ministres.
Et les autorités françaises ont continué à mettre en doute et en cause les supporters anglais. C'était quelque chose de très négatif envoyé à ces supporters anglais et espagnols. Lorsqu'on a auditionné le maire de Liverpool, les choses étaient très claires. Lui-même avait été subi une agression à proximité du stade et donc il mettait en cause la parole de l'autorité et des ministres français.
Pour lui, c'est normal que les Français se questionnent sur notre capacité à organiser les Jeux.
Il y a une loi qui a été débattue et qui a été votée pour mettre en place des systèmes de sécurité et de protection autour de ces événements sportifs. Est-ce qu'on est en capacité d'organiser aujourd'hui en France ce type d'événement? Moi, je pense que oui, mais il faut qu'on s'en donne les moyens.
Du côté de la police, la cellule d'enquête spéciale a travaillé pendant 4 mois sur les 250 plaintes reçues pour des faits de vol et de violence aggravée. En marge de cette finale, les enquêteurs ont même découvert scène édifiante. Après visionnage des caméras de vidéosurveillance, une tentative d'homicide sur le RERD, un supporter anglais avait été détroussé par plusieurs individus et balancé contre une rame en activité. C'est finalement un autre fan de Liverpool qui lui sauvera la vie.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ce reportage édifiant qui nous ramène à une soirée absolument apocalyptique au Stade de France. Le fiasco du Stade de France il y a un an, c'était le 28 mai 2022. Merci et tu restes avec nous pour ce débat car nous allons maintenant évoquer la suite et les autres événements majeurs prévus en France. Avez-vous peur les GG à un an des Jeux? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marie Martineau?
Non.
David Douillet? David? David, une fois? Ouais, vas-y. Ah, dis-nous, c'est bon, t'entends.
Ouais, non,
on t'entend.
J'ai dit non.
T'as dit non. Ok. Renaud Longuèvre?
Oui.
Oui, vas-y, tu commences, Renaud. Pourquoi oui?
Je commence parce que pour moi, je vais prendre un peu de hauteur de vue. Le climat social en France a une tendance à la radicalisation. David, qui a fait de la politique, me dira pas le contraire. On vient de traverser une période où le gouvernement est passé en force avec le 49-3. La droite est devenue l'extrême droite ou vice-versa. À gauche, c'est pareil, il y a plus de gauche, on va dire, modérée. La finale de Coupe de France a été pour moi l'illustration avec les syndicats qui distribuaient des cartons rouges et le président de la République qui a été obligé de modifier son protocole, qui a pas pu serrer la main aux joueurs. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça fait que pour moi, on peut pas exclure qu'à un an des Jeux, eh bien, les gens qui ont des revendications et la colère qui gronde en France, dans la rue, en dehors du sport, je parle de la société en général, qu'ils essayent d'utiliser cet événement pour exprimer leur colère, tu peux pas l'exclure. Alors évidemment, moi je pense pas à des problèmes comme ceux rencontrés lors de la finale de la Champions League de foot, parce que le public des Jeux Olympiques n'est pas le même public que le public du football. Il y a pas des entre guillemets un peu hooligans ou des gens qui viennent avec des intentions violentes sur des événements comme les JO. Donc c'est pas à ça que je pense. Une fausse billetterie. Par contre, on peut pas exclure des problèmes liés aussi au billet, hein, quand on voit la gestion des places et la frustration et la colère des gens quand on voit le prix des places. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui fait que, pour moi, je vois pas, je peux pas exclure que qu'il y ait des gros problèmes qui se passent au JO.
Ok, tu n'es pas tranquille, Marie Martineau.
Oui, moi je souscris absolument pas à tout ce que vient de dire Renaud. Ça vous n'étonnera personne. Je suis pas du tout sur la même ligne de façon de voir les choses politique. Je pense qu'il existe toujours une gauche modérée malgré tout de base. Bah attends, je l'ai noté. Les problèmes de tickets n'en seront pas parce que c'est quand même une toute autre machine. L'organisation, le CIO, c'est une toute autre machine et une toute autre expertise en la matière en termes d'organisation d'événements internationaux. Si on a réussi à organiser des événements internationaux comme les Jeux dans certains coins du globe un peu flippants, je pense qu'on y arrivera en France. Des problèmes de filtrage n'en seront pas, des problèmes d'acheminement non plus, d'amassement comme on a pu l'entendre sur des grilles, ça n'arrivera pas. Tout ceci va être traité bien en amont. Évidemment que la population ne sera pas la même non plus. Enfin, je suis absolument pas inquiète, mais c'est une nature déjà de base chez moi. Et ça vient aussi du fait que je me suis rendue quand même à trois Olympiades différentes, si je compte pas celle d'Albertville 92. Et voilà, j'ai toujours été admirable. J'ai toujours été admiratif, merci, de cette capacité à traiter les foules justement qu'a le CIO. Quoi.
Ok, avant de vous entendre, David et Simon, ouais. Juste un point sur la cérémonie d'ouverture, parce que depuis quelques jours, nous avons quelques informations sur l'organisation, la sécurité. Forcément, c'est quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de sécurité autour de ces Jeux Olympiques. C'est la cérémonie d'ouverture. Nicolas Pelletier.
Cérémonie en dehors d'un stade qui aura lieu le 26 juillet 2024. 35 000 policiers et gendarmes mobilisés le jour de la cérémonie d'ouverture. 100 000 personnes sur les quais bas, c'est-à-dire les quais où on va payer les places, par exemple, à 2 700 euros, qui seront très proches du Trocadéro. On pourra voir la cérémonie d'ouverture sur ces quais bas. Et normalement, 400 000 personnes sur les quais hauts, ça sera une billetterie gratuite. Mais petite nouveauté, c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas vocation à faire de la billetterie. C'est lui qui va gérer la billetterie des Jeux Olympiques. Il y a une seule raison. Pourquoi c'est le ministère de l'Intérieur qui gère cette billetterie? C'est que ça va permettre un criblage des personnes qui seront sur ces 400 000 places gratuites. Excellent. Autour des Jeux.
Ok.
C'était pas fait.
Intéressant.
David Douillet.
Non, mais moi, j'ai répondu non, parce qu'en fait, ces affaires de grande délinquance, parce qu'il s'agit de ça quand même, et Renaud, là où tu te trompes, c'est quand tu parles de mouvement politique, etc. Mmh. Le mouvement politique, là, aujourd'hui, c'est des pancartes, etc., et ça va pas plus loin. Voilà. On parle de hordes de fous furieux qui saccagent. C'est ça dont le maître mot pour maîtriser ce genre de problème, c'est l'anticipation. Et moi, je vais vous parler d'un homme qui a pris la place du préfet de police, qui n'a pas été compétent pour gérer l'affaire du Stade de France, c'est Laurent Numez. Laurent Numez, c'est quelqu'un qui est préfet de police de Paris aujourd'hui. Il a été coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est quelqu'un qui, professionnellement, a été formé et éduqué dans cette mécanique de l'anticipation. Avoir ce personnage-là aujourd'hui à la préfecture de police de Paris, ça me rassure. Avoir l'expérience des organisateurs d'événements sportifs et que la billetterie soit maîtrisée par nous-mêmes, ça me rassure. Parce que la problématique initiale, ça a été quand même la billetterie gérée par l'UEFA qui était, qui laissait à désirer. Mais il faut écouter aussi ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne juste un exemple qui s'est passé vendredi soir à Bourg-en-Bresse, où en National 1, Bourg-en-Bresse recevait Nancy. Le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, avait sommé ou avait demandé à ce que les supporters de Nancy ne soient pas là, soient en dehors du stade, etc., etc., à la préfecture. La préfecture ne l'a pas écouté. 250 types de Nancy ont saccager le stade Verchères à Bourg-en-Bresse. Ils ont stoppé la fin du match à quelques minutes de la fin. Ils ont envoyé des pétards, ils ont arraché les sièges, ils ont déclenché des feux. On les a exfiltrés. Le match a repris 20 minutes plus tard. Il y a un joueur qui a reçu un pétard à côté de l'oreille qui aujourd'hui a été blessé. Enfin, c'est scandaleux. À un moment donné, il faut les bonnes personnes au bon endroit. Voilà. Et ceux qui ne sont pas compétents, eh bien, il faut leur demander des comptes.
Simon Dutin.
Nouniez, président. non, pour répondre à Renaud, voilà, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. C'est quand même pas la CGT ou le Rassemblement National qui a mis le bazar sur le parvis du Stade de France. Effectivement, je pense que la sociologie des spectateurs des Jeux Olympiques est un petit peu différente de celle, sans aller jusqu'à parler de hooligan. Il y a quand même des supporters respectables. Non, mais je veux dire, je pense que la sociologie n'est pas la même. On va venir en famille, beaucoup. On va venir du monde entier. Effectivement, je pense qu'il y a eu effectivement une défaillance des autorités françaises qui ont prouvé qu'on avait évidemment aucune culture foot, parce que la culture foot, c'est pas seulement aimer ce sport, c'est aussi prendre en compte à tous les impératifs de sécurité et effectivement la dangerosité de certains climats autour de certains grands événements. Voilà, une finale de Ligue des Champions que, je rappelle, on a organisée malgré tout en catastrophe parce qu'elle devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg et on a finalement accueilli cet événement
en raison de la guerre en Ukraine.
Voilà, il y a eu
trois mois pour la préparer.
Non mais attends, je te dis, une défaillance des autorités qui, je pense, ont sous-estimé finalement la portée, l'importance qu'a cet événement et effectivement l'effet d'opportunité que ça a représenté pour certaines personnes qui s'ennuyaient un petit peu ce soir-là. Donc je suis absolument pas inquiet, effectivement, pour le coup, pour les Jeux, la planète entière nous regarde et effectivement je pense qu'ils ont
grande répétition des Jeux lors de la Coupe du Monde, hein,
plus
2023.
Que mettre les petits plats dans les grands.
Exactement, et pour retrouver le reportage de Nicolas Pelletier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez aller sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants. À vous de jouer, les auditeurs. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un des nombreux débats du jour. Roland Garros, le Grand Prix de Monaco, le PSG champion, Marseille 3e. N'hésitez pas, c'est le 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h51 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC. À partir de midi, les paris, ne manquez pas ce rendez-vous. On parlera de Roland Garros. Qui va gagner Roland? La Dream Team va devoir se mouiller. Qui va gagner Roland Garros, évidemment, parce qu'il y aura Roland Courbis. Attention à faire le distinguo et les nuances par rapport à un petit peu de fatigue. Allez, tout de suite au 32-16.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Xavier nous appelle au 32-16. Bonjour Xavier.
Bonjour les GG.
Salut Xavier.
Merci d'être avec nous ce matin. Tu veux t'attaquer à qui?
Et je crois que cette chère camarade Marine qui m'a un petit peu agacé en parlant du Grand Prix de Monaco.
Ah, chiant, pas chiant, le Grand Prix de Monaco. Ton avis, j'imagine que pour toi, il te plaît ce Grand Prix.
Mais Marie, t'écoute. Bien sûr, Marie. Le Grand Prix de Monaco, c'est un des membres de la triple couronne du sport automobile. Il faut dans sa vie, si on veut, peut être au Panthéon, gagner Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. S'il y a trois courses qui sont spéciales dans la Formule 1 depuis des années, ce sont des circuits très particuliers que sont Monaco, Spa et Suzuka. Monaco, tu dis que c'est chiant, mais je suis désolé, moi, sur les 7 dernières années, seulement deux fois un mec qui a fait la pole a fini premier. On dit qu'il n'y a pas de dépassement possible. Moi je me rappelle de Fernando Alonso il y a quelques années, qui a remonté 18 bagnoles avant lui. Comment ça s'appelle, Schumacher l'avait fait sur 15 autres. Quand il y a des déluges incroyables, on avait vu l'avènement d'un jeune pilote, Ayrton Senna, qui était à deux doigts de gagner une course avec une voiture de merde face au grand champion Alain Prost ou comment il s'appelle déjà ? Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait eu aussi Panis qui survit alors que là encore toutes les grandes écuries ne réussissent pas à rallier l'arrivée. Non, c'est un circuit qui effectivement n'est pas propice à des dépassements très faciles, mais aujourd'hui quel est l'intérêt de voir des longues lignes droites avec des mecs qui foutent le DRS et qui se doublent avec l'aspiration sans faire une seule difficulté? Ou alors si c'est juste ça pour attirer les jeunes, parce que les jeunes ils s'ennuient très vite, parce que les jeunes ils veulent que ça bouge, ben on fait un Grand Prix des 500 miles d'Indianapolis de F1 où on les fait tourner sur un anneau comme des cons et ça se dépassera pendant deux heures. Et puis voilà.
Très bonne grande gueule, Xavier. Marie va répondre tout de même. Bravo, Xavier.
Ouais, Xavier, je sais pas pourquoi j'ai envie de lancer le pari que tu t'endors avant le 20e tour cet après-midi, mais je serai pas là pour vérifier. Je comprends.
Si tu veux.
Mais oui, bien sûr. Mais oui, organisons ça.
Non, mais je comprends ce que tu dis. Et au cours du débat, j'ai quand même eu l'occasion l'occasion de bien revenir sur le fait que je remettais pas en question l'héritage, l'histoire de ce Grand Prix, le fait qu'il fait partie de la triple couronne, tout ça. Évidemment, je l'ai redit, je rêve d'y aller et de le vivre une fois dans ma vie, ce Grand Prix. Il n'empêche que si tu veux continuer à pouvoir le voir, ce Grand Prix, si tu veux qu'il reste dans les annales, tu veux que il continue à faire partie de la tournée des Grands Prix d'une année sur l'autre, il va certainement falloir que Monaco, l'organisation, la FIA trouve des solutions pour y ramener un petit peu plus de sel, pour le rendre plus j'allais dire photogénique, mais c'est pas ça, c'est il faut que ça rende quelque chose de plus visuel pour les gens qui sont dans le canapé, parce que sinon, oui, effectivement, je le déplore. J'ai un peu la trouille de ça, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis hyper fan du Grand Prix de Monaco.
Merci Xavier, tu as été sublime ce matin. Tu as composé le 32-16 et à bientôt sur RMC. Philippe nous appelle également. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour les GG.
Salut Philippe. Salut.
Philippe, tu vas affronter qui ce matin?
J'ai beaucoup de respect pour M. David Douillet, mais
ce sera pour lui.
Avec l'OM.
Ok, vas-y, il t'écoute sur l'OM. L'OM a-t-il raté la saison? C'est notre débat après avoir terminé 3e hier soir.
Exactement. Donc, pour moi, elle n'est pas ratée, dans le sens où le projet de Longoria, c'est de pérenniser ce club en Ligue des Champions, et qu'aujourd'hui, il peut toujours la jouer. Donc, elle n'est pas ratée. Rien que pour ça, elle n'est pas ratée. Après, par rapport à ce que tu disais, David, sur le parallèle que tu fais sur le budget, sur les budgets en tout cas, en effet, Paris est promis avec 700 millions à prendre tous les trophées nationaux, du coup. Et derrière, l'OM n'a pas un budget supérieur à celui de Monaco, de Lyon. Et du coup, il se bat en effet pour la deuxième, troisième place. Mais le fait d'être troisième cette année n'est en ça pas un échec budgétairement. L'autre argument que j'ai, c'est que si on regarde dans les années précédentes, le nombre de points pris par le deuxième du championnat, aujourd'hui, on y est. Donc en ça, je pense qu'on est dans les standards. Et puis après, il faut pas enlever aussi la saison exceptionnelle de Lens.
Donc... Tu te contentes d'une place de troisième, d'un échec en Coupe de France, voilà, toi ça te plaît?
Non, je dis pas que je m'en contente, mais par contre, je le mets pas comme une saison ratée, dans le sens où, alors, certes, ouais, la Coupe de France, c'est le seul hic, parce qu'en effet, je pense qu'on n'avait pas le droit de perdre à domicile contre Annecy, ça c'est un vrai échec. Sur la saison, je suis pas. Non, je trouve qu'on a fait une saison qui est réellement très très correcte. Alors après, c'est pareil, on a déception des matchs perdus à domicile.
Mais t'as pas envie de mieux?
Comment?
T'as pas envie de mieux?
Si, moi j'ai envie. Bien sûr, j'ai toujours envie de mieux.
Mais tu t'en contentes cette année?
Pour l'instant, j'ai envie que l'OM soit en Ligue des Champions et ils vont peut-être l'être. En tout cas, parce qu'on va, affronter des équipes.
Moi, j'adore l'OM et j'aimerais, de par l'histoire de ce club, qui est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions, retrouver cet élan-là. Or, aujourd'hui, si tu te contentes du minimum syndical, parce que pour l'OM, aujourd'hui, cette année, pour moi, c'est le minimum syndical, si t'aimes ce club-là, t'as envie de le voir aller percuter le PSG, aller percuter les plus grands clubs européens, ne pas lâcher en Coupe de France et redonner toutes les lettres de noblesse à cette marque. Voilà.
Attention, David Douillet est en train de vouloir remonter sur le tatami, donc fais très attention à toi, Philippe.
C'est pas ça, mais c'est en cela que je dis qu'il faut donner de l'élan. Tu vois, tu peux pas être fan d'un club et aimer le sport en te cantant du minimum, quoi. Voilà, c'est ça mon état d'esprit par rapport à l'OM.
Merci Philippe d'avoir été avec nous et d'avoir composé le 32-16. Et merci à vous, les GG, Renaud Longuèvre, David Douillet, Marie Martineau, Simon
merci
Dutin.
À tous.
On se retrouvera la semaine prochaine à partir de 9h. Tout de suite, les paris RMC autour de Roland Garros. On vous embrasse. Très belle journée.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.